Les trois étapes de l'expression de soi. Que veut dire montrer son travail? Au chapitre 3, j'ai expliqué comment les gens passent généralement par trois étapes lorsqu'ils se construisent un second cerveau et affûtent leurs compétences en matière de gestion des connaissances. Se rappeler, connecter, créer. En partant d'expériences vécues par d'anciens étudiants à moi, voyons maintenant à quoi peut ressembler chacune de ces trois étapes. Se rappeler. Récupérer une idée pile au moment où l'on en a besoin. Benigno est un père de famille philippin consultant en affaires. Intéressé par les crypto-monnaies, il lisait quantité d'articles qu'il épinglait, mais oubliait aussitôt, et ce, quelle que soit la méthode d'organisation employée. Jusqu'au jour où il s'est décidé à se construire un second cerveau. Par la suite, quand il est de nouveau tombé sur un article évoquant un type de crypto-monnaie innovant, il a pris quelques minutes pour en sauvegarder les meilleurs passages dans une note. Lorsque certains de ses amis se sont intéressés à ce sujet complexe, il a synthétisé ses extraits par étapes avant de partager le résumé final avec eux. Les 8 minutes qu'il a consacrées à cette tâche ont offert à ces derniers un gain de temps précieux tout en leur donnant à tous une nouvelle occasion de discuter. Je savais instinctivement qu'envoyer un long article à des amis ne sert généralement à rien, mais comme j'avais souligné les passages importants du texte que je leur ai envoyé, ils ont pu le parcourir rapidement. De plus, j'ai maintenant de la matière pour un futur article que j'avais prévu de rédiger. Tout cela grâce à Code, m'a ainsi confié Benigno. Pas besoin de concevoir une nouvelle théorie ou d'écrire le prochain grand roman pour tirer profit de votre second cerveau. Quelques jours à peine après que vous aurez capté une idée qui résonne en vous, vous aurez envie de la partager avec d'autres que vous, intéressés par le même sujet. Connectez. Servez-vous de vos notes pour raconter une histoire plus riche. Patrick est pasteur dans le Colorado et son second cerveau lui sert à concevoir des services commémoratifs qui, pour lui, sont des expériences créatives permettant d'honorer la vie. Son but est de raconter l'histoire d'une personne d'une manière qui honore et donne un sens rétrospectif au déroulement de sa vie. Autant avant c'était une lourde charge, autant depuis qu'il envisage ses services au travers du prisme de son second cerveau, il a réalisé que son travail consistait simplement à rassembler et à relier entre eux certains des thèmes et des histoires qu'on lui confiait, de façon que cela ait du sens pour les proches du défunt. Depuis, il a modifié son processus créatif. Il s'est mis à enregistrer ses conversations en se servant d'une application de transcription automatique sur son smartphone, ce qui lui permettait de se concentrer pleinement sur les familles en deuil, en sachant qu'il ne perdrait rien de leurs échanges. Pour chaque mémorial, il centralisait toutes ses transcriptions, les nécrologies, les photos et autres documents connexes dans le dossier PARA du projet commémoratif correspondant. Au lieu de passer 5 à 7 heures après chaque entretien à distiller ce qu'il avait entendu, il n'avait plus besoin que d'un quart d'heure pour noter les parties qui résonnaient en lui. Ainsi qu'il le dit, « Utiliser mon premier cerveau uniquement pour ce qu'il sait le mieux faire, c'est la liberté d'être présent et de ne pas jongler avec plusieurs tâches à la fois quand je suis avec des personnes en deuil qui écoutent les histoires de leurs proches. » La liberté de savoir que tout est enregistré et la liberté de savoir que lorsque je vais monter la cérémonie commémorative, 80% du travail a déjà été fait. L'expression créative n'est pas nécessairement destinée à se promouvoir soi-même ou à faire avancer sa carrière. Certains de nos actes les plus créatifs et les plus beaux consistent simplement à lier les choses entre elles pour autrui d'une manière que nous seuls sommes en mesure de faire. Créer. Finaliser ses projets et atteindre ses buts sans stresser. Rebecca est professeure de psychologie de l'éducation dans une université de Floride. Et elle se sert de ses notes numériques pour créer des programmes et des présentations en rapport avec son enseignement. Avant de se construire un second cerveau, elle attendait d'avoir une large plage de temps libre devant elle pour rassembler ses idées en vue d'une présentation, ce qui arrivait de moins en moins souvent compte tenu de sa charge de travail tant professionnelle que familiale. Heureusement, ses notes numériques lui ont donné un nouveau moyen d'avancer sur ses projets. Dans les semaines précédant une intervention, Rebecca commence à rédiger de courtes notes, reprenant des idées ou des éléments qu'elle pourrait éventuellement inclure dans sa présentation. Puis, quand elle s'assoit pour faire son plan, elle a déjà à portée de main toutes les briques intermédiaires, métaphores, faits avérés par la recherche, anecdotes et diagrammes nécessaires. Il ne lui reste plus qu'à assembler ses notes et les briques existantes. Je peux traiter mes priorités, qu'elles soient professionnelles, familiales, relatives à mon couple ou autres, puis ne plus me préoccuper que de mes projets en cours, explique-t-elle. Quel que soit ce qu'il vous incombe de produire, un document, une présentation, une décision, un résultat, votre second cerveau est la ressource vitale pour tous les éléments que vous voudrez avoir devant vous lorsque viendra le temps de vous concentrer sur la tâche à accomplir. C'est un environnement créatif dans lequel vous pouvez pénétrer à tout moment et en n'importe quel lieu quand il vous faut passer à l'action. Par nature, la créativité est collaborative. Un mythe largement répandu voudrait que l'artiste soit un être solitaire, travaillant de façon totalement isolée. Implicitement, cela véhicule l'idée que, pour produire une œuvre originale, nous devons nous couper de l'influence des autres et ne compter que sur notre labeur. D'après mon expérience, la créativité ne fonctionne absolument pas comme ça. Peu importe votre moyen d'expression, tôt ou tard, vous devrez travailler avec d'autres. Si vous êtes musicien, vous aurez besoin d'un ingénieur du son pour enregistrer vos créations. Si vous êtes acteur, vous aurez besoin d'un réalisateur qui croit en vous et vous donne la liberté d'expérimenter. Même l'écriture d'un livre, bien qu'elle évoque l'image d'une cabane perdue dans les bois, est un exercice de nature intensément sociale. C'est le fruit d'une danse entre un auteur et son éditeur. Si vous vous contentez de morceler vos productions sous forme de briques intermédiaires sans rien changer par ailleurs à vos habitudes de travail, cela ne libérera en rien votre véritable potentiel. La force de cette approche, c'est qu'elle les rend intrinsèquement plus partageables et propices à la collaboration. Vous aurez beaucoup plus de facilité à recueillir un avis extérieur sur quelque chose de bref et circonscrit que sur l'intégralité du projet qui vous occupe. Il est aussi plus facile d'encaisser des critiques sur un aspect limité de son travail à un stade précoce où l'on a encore le temps de le corriger qu'après des mois d'efforts. Chaque petit élément de retour intermédiaire vous permettra d'affiner ce que vous faites, de le rendre plus concentré, plus attrayant, plus succinct ou plus aisé à comprendre. La difficulté fondamentale du travail créatif est que nous avons souvent trop le nez dans le guidon pour pouvoir apprécier ce que nous faisons objectivement. Recevoir du feedback permet d'obtenir un regard neuf et extérieur. C'est sortir de son point de vue et remarquer ce qui fait défaut à notre production. Une fois que vous aurez compris toute la valeur que représente le feedback, vous n'aurez de cesse d'en solliciter. Vous serez à l'affût de toutes les occasions possibles pour partager vos productions et appréhender la façon dont autrui les perçoit. Ces moments sont si importants que vous commencerez à modifier votre manière de travailler afin d'obtenir du feedback le plus tôt et le plus souvent possible, car vous saurez qu'il est beaucoup plus facile de compiler et de synthétiser les pensées des autres que de produire seul quantité de brillantes idées. Vous vous considérerez comme le commissaire d'exposition de la pensée collective de votre réseau plutôt que comme l'unique source d'idées originales. Certaines notes de votre second cerveau ont une valeur disproportionnée et vous constaterez que vous reviendrez sans cesse dessus. Ce sont les pierres angulaires de votre travail, sur lesquelles tout le reste repose. Sauf que vous ne pouvez généralement pas les identifier comme telles d'emblée. C'est en partageant vos idées avec d'autres personnes et en voyant lesquelles résonnent en eux que vous le découvrirez. Tout n'est que combinaison. La méthode CODE est fondée sur une caractéristique importante de la créativité. Il s'agit toujours d'une combinaison d'éléments préexistants. Nous nous tenons tous sur les épaules de nos prédécesseurs. Personne ne crée quoi que ce soit à partir du néant. Pour bien comprendre ce que j'entends par là, considérons le kit bashing, une pratique qui consiste à prendre des éléments de différents sets de modèles réduits pour les recombiner et fabriquer quelque chose de nouveau. Adopté par l'industrie du cinéma, notamment pour la réalisation des films Star Wars et Indiana Jones, cette pratique permet de respecter les délais de tournage et les budgets. Au lieu de partir de zéro, les pièces préfabriquées, des modèles de canons de DCA de la Seconde Guerre mondiale, de cuirassés de la marine américaine, d'avions de chasse, de chars T-34 et de sous-marins, sont ainsi recyclées pour ajouter de la texture et des détails fins aux scènes d'effets spéciaux en une fraction de temps et du coût normalement nécessaire. Adam Savage, animateur de la célèbre émission télévisée Mythbusters et modéliste chevronné, a fait remarquer que, du fait de la polyvalence de certaines pièces, il y avait des kits que l'on utilisait sans cesse. Dans son travail pour Industrial Light and Magic, le studio à l'origine de nombreux films à effets spéciaux, il s'est ainsi appuyé sur un kit particulier qui s'est retrouvé dans presque tous les modèles construits par l'équipe. Pour autant, gardez-vous de vous approprier la production d'autrui d'un bloc. N'en empruntez que des aspects ou des parties. Par exemple, la forme d'une bannière web, la mise en page d'une diapositive, le style d'une chanson sont autant d'ingrédients que vous pouvez mixer pour concocter votre propre recette. Bien entendu, même si vous n'y êtes pas strictement obligé, citez toutes vos sources. Rendre à César ce qui appartient à César ne diminuera pas la valeur de votre contribution. Cela la rehaussera. Comme toutes vos sources seront clairement documentées dans votre second cerveau, vous n'aurez pas de peine à les retrouver pour les inclure dans votre version définitive. Je me rappelle la première fois que quelqu'un m'a parlé de ce que je faisais en disant « votre travail », j'ai tout à coup compris que j'avais produit quelque chose d'indépendant de moi, avec son identité propre. Commencer à percevoir son travail de cette façon est un tournant dans la vie de tout créatif professionnel. Concevoir sa production comme un agrégat de briques intermédiaires est une étape majeure pour vous rapprocher de cet objectif. Au lieu de penser votre travail en termes de tâches qui nécessitent que vous soyez là, personnellement, à tout faire par vous-même, vous pourrez le découper en actifs et en matériaux de construction qu'il est possible d'assembler. Plus vous prendrez conscience du potentiel de vos actifs intellectuels, plus vous chercherez à en créer en évitant autant que possible les tâches ponctuelles. Au lieu de vous dire qu'il vous appartient de tout construire vous-même, vous vous efforcerez d'acquérir ces actifs et d'en externaliser la création à d'autres. Ce faisant, vous pourrez accomplir vos tâches à un rythme qui dépasse de loin ce que de simples conseils de productivité vous permettrait d'atteindre. Même si vous n'êtes pas, à présent, en train d'écrire un livre, de bâtir une présentation ou de développer un nouveau modèle en lien avec votre travail, rien ne dit que ça n'arrivera jamais. Chaque petit artefact numérique que vous créez, vos emails, vos notes de réunion, vos plans pour vos projets, vos gabarits, vos exemples, contribuent à l'évolution permanente de votre travail. Ils sont comme les neurones d'un organisme intelligent qui grandit, se développe et tend vers un niveau de conscience plus élevé à chaque nouvelle expérience vécue. À votre tour, vous seul savez ce que vous souhaitez produire. Ma citation préférée sur la créativité vient du philosophe du XVIIe siècle Giambattista Vico, « Verum ipsum factum », ce qui signifie « le vrai et le faire même ». Pour vraiment connaître quelque chose, il ne suffit pas de se documenter. Tant qu'elles restent dans votre tête, les idées ne sont par nature que virtuelles et fugaces. Pour que l'une d'elles s'impose vraiment, vous devez la manipuler, mettre les mains dans le cambouis et l'appliquer à un problème pratique. C'est en réalisant des choses concrètes que nous apprenons, avant même de nous sentir prêts, avant d'avoir tout compris et avant de savoir où cela nous mènera. C'est lorsque vous commencez à exprimer vos idées et à mettre en œuvre vos connaissances que votre vie change vraiment. Vous lirez différemment, vous vous concentrerez davantage sur les parties les plus pertinentes pour l'argumentaire que vous êtes en train de construire. Vous poserez des questions plus pointues et vous ne vous contenterez plus d'explications vagues ou décousues. Comme les feedbacks que vous aurez reçus auront significativement fait avancer votre réflexion, vous chercherez naturellement des occasions de montrer votre travail. Vous agirez de manière plus délibérée dans votre carrière ou votre entreprise. Et chaque fois que vous consommerez un contenu, vous vous projetterez au-delà du moment présent pour réfléchir à son potentiel ultime. Il ne s'agit pas forcément de devenir un artiste professionnel, un influenceur ou un mania du monde des affaires, mais de vous approprier votre production, vos idées et votre capacité à contribuer au domaine de votre choix. Peu importe le calibre de votre création ou le nombre d'individus qui la voient, elle peut être réservée à un cercle familial ou amical, à vos collègues ou à votre équipe, à vos voisins ou à vos camarades de classe. Ce qui compte, c'est que vous trouviez votre voie et que vous soyez persuadé que ce que vous avez à dire a de la valeur. Pour cela, il faut que vous attribuiez suffisamment d'importance à vos idées pour vouloir les partager. Vous devez croire que même la plus petite d'entre elles a le pouvoir de changer des vies. Si ce n'est pas encore le cas, commencez par lancer un projet modeste pour vous prouver que vos idées peuvent faire la différence. Vous pourriez ainsi prendre conscience que vous avez beaucoup de notes sur la diététique et tenter de réaliser votre propre version saine d'une recette classique. Ou vous pourriez décider de rassembler dans une présentation à l'attention de vos collègues de travail toutes vos notes sur le cours que vous avez suivi pour améliorer vos compétences en gestion de projet. Ou encore, vous pourriez tirer parti des enseignements et des expériences de vie que vous avez consignées dans des notes pour rédiger un billet de blog ou enregistrer une vidéo sur YouTube afin d'aider les individus confrontés à un défi similaire. Tous ces actes d'expression personnelle vous permettront de libérer pleinement votre potentiel créatif.